Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal République centrafricaine. Le gouvernement centrafricain a affirmé ce mercredi que l'accord de paix signé le 6 février à Bangui avec les groupes armés contrôlant 80% du pays est bien en cours d'application. L'accord est en train d'être mis en œuvre, a déclaré le ministre centrafricain de la communication, Ange-Maxime Kazaghi, lors d'une conférence de presse dans la capitale aujourd'hui. Une commission inclusive composée des représentants des partis en conflit a bien été créée par un décret du président Faustin Archange Touadéra, comme le stipule l'accord. Et elle va préparer le travail d'une commission vérité, justice, réparation et réconciliation qui doit être mise en place dans moins de 3 mois. L'accord de paix négocié à Khartoum sous l'égide de l'Union africaine prévoit notamment qu'un gouvernement inclusif soit nommé immédiatement après signature de l'accord, ce qui n'a pas encore été fait. Mais le ministre Kazaghi assure qu'il n'y a pas de souci concernant le remaniement ministériel à venir. Corruption et politique en République démocratique du Congo après la présidentielle et la législative du 30 décembre. L'occasion sera donnée aux nouvelles autorités congolaises de prouver leur engagement à lutter contre ce fléau avec la désignation le mois prochain de 108 sénateurs et des gouverneurs dans 24 des 26 provinces du pays. Ces élections ont lieu au scrutin indirect et les grands électeurs ont souvent tendance à monnayer leur voix en dollars. La RDC est l'un des 10 pays les plus corrompus au monde, selon l'indice de perception de l'ONG Transparency International. Et dans son discours d'investiture le 24 janvier, le nouveau président congolais Félix Tshisekedi a qualifié la corruption de fléau qui dévaste le pays et ses institutions. Le chef de l'État a promis une stratégie de lutte anticorruption dans l'ensemble des rouages de l'administration publique. RDC toujours, l'épidémie de fièvre Ebola qui a tué 528 personnes dans l'est du pays est actuellement maîtrisée dans l'un de ses foyers, la zone de Beni. C'est ce qu'a annoncé le ministre congolais de la Santé dans l'une des premières notes d'optimisme depuis le début de l'épidémie le 1er août dernier. Beni a été l'un des principaux épicentres de la fièvre hémorragique avec 118 décès de cas confirmés. Agitation anglophone au Cameroun maintenant, des militaires de Bamenda dans la région anglophone du Nord-Ouest se sont assignés une nouvelle mission, ramasser les ordures. Des séparatistes présumés ont détruit le matériel de la société qui est normalement chargé de cette tâche. Les précisions de John Lyndon.
Isacam, l'entreprise spécialisée dans la collecte des ordures ménagères, a suspendu ses activités à Bamenda le 1er février. L'arrêt de ces travaux intervient à la suite de la destruction de camions Ben et d'autres installations par les hommes armés séparatistes anglophones présumés. Depuis, les ordures s'accumulent dans la ville. Des habitants excédés les brûlent, ce qui provoque des incendies et fumées toxiques. Des soldats et sapeurs-pompiers ont été déployés dans les quartiers de Bamenda pour remplacer les éboueurs. « Nous ne pouvions pas continuer de voir les populations souffrir de la situation », a déclaré le général Robinson Naga, commandant de la 5e région militaire basée à Bamenda. Depuis fin 2017, les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont le théâtre d'un conflit armé. Selon International Crisis Group, plus de 200 soldats et au moins 500 civils ont été tués.
En Ouganda, le parti au pouvoir a annoncé ce mercredi avoir apporté son soutien au président Yoweri Museveni pour la présidentielle de 2021 en vue d'un 6e mandat à la tête du pays. Dans une résolution, le mouvement de la résistance nationale, NRM, a exhorté le président Museveni, 74 ans et au pouvoir depuis 1986, à continuer à diriger le mouvement et l'État en 2021 et au-delà. Et ce, pour éliminer les freins à la transformation du pays, a souligné le NRM.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Au Nigeria, au moins 14 coupeurs de bois ont été tués dans une attaque du groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du pays. C'est ce qu'ont affirmé ce mercredi des miliciens engagés dans le conflit aux côtés de l'armée. Nous avons retrouvé un total de 14 corps sur les lieux de l'attaque et nous en cherchons encore 4 autres, a souligné un responsable de la milice, Baba Koura Kolo. Des hommes soupçonnés d'appartenir à la faction de Boko Haram dirigée par le leader historique Aboubakar Shekau ont attaqué lundi un groupe de civils partis ramasser du bois de chauve dans la forêt de Kochebe, à une dizaine de kilomètres du chef de l'État de Borno, Maïdou Gouri. Boko Haram vise régulièrement les agriculteurs, bûcherons et éleveurs qui travaillent en brousse, les accusant de fournir des renseignements sur les insurgés aux autorités nigérianes. Violence au Niger. Deux officiers de l'armée nigérienne, dont le commandant de la base de Dioko, une des plus importantes du pays, ont été tués dans un affrontement avec des trafiquants de drogue dans le nord du pays. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP sous couvert d'anonymat ce mercredi un élu local basé à Agadez. Il y a eu aussi de nombreux blessés lorsque leur convoi est tombé lundi dans une embuscade tendue par des trafiquants de drogue lourdement armés, a ajouté l'élu en question, en précisant que les deux militaires tués sont le commandant du bataillon de Dioko, Lamine Mahamat, et son chauffeur. La base de Dioko abrite des drones américains dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Le convoi de ravitaillement avait quitté Agadez pour se rendre à Dioko lorsqu'il a essuyé des tirs nourris d'hommes armés transportant de la drogue à bord de plusieurs véhicules. Les militaires nigériens ont pu récupérer deux véhicules appartenant aux trafiquants, mais ces derniers ont réussi à s'évanouir dans le désert. Selon la télévision d'État nigérienne, le président Mahamadou Issoufou a convoqué mardi une réunion du Conseil national de sécurité après l'attaque. Côte d'Ivoire, le leader du premier syndicat des professeurs d'université publique, Johnson Zamina Kwasi, a été inculpé et écroué mardi à Abidjan. Les détails avec Morgane Guiriec.
Le secrétaire général de la Coordination nationale des enseignants-chercheurs a été écroué à la préfecture de police où il a passé la nuit. D'après Théodore Nyanyazadi, président de la plateforme qui regroupe une cinquantaine de syndicats de fonctionnaires, un autre camarade a aussi été déféré au parquet d'Abidjan dans l'attente d'être présenté à un juge. Monsieur Zadi, qui dénonce une violation des libertés syndicales, estime que cette arrestation abusive suspend une trêve sociale signée en août 2017 entre le gouvernement et les syndicats. La grève des professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est rentrée lundi dans sa cinquième semaine. Outre l'arrestation de deux enseignants, le conseil de discipline de l'université a exclu quatre enseignants, dont le responsable de la CENEC, pour des violences. Sept autres professeurs ont été suspendus de toute activité académique pour 6 à 12 mois. Monsieur Kwasi avait déjà averti lundi qu'une telle mesure allait exacerber la grève et durcir leur mouvement.
Actualité hors d'Afrique pour terminer. Conflit en Syrie, des dizaines de civils, mais aussi des combattants du groupe djihadiste État islamique se sont rendus aux forces arabo-kurdes mardi dans l'est du pays. Et leur évacuation a commencé aujourd'hui. Des détails avec Léo Morin-Gibour.
Cela fait plusieurs jours que plus personne n'était sorti de la petite poche encore sous contrôle du groupe État islamique du village de Bakrouz, petit hameau de la province de Deir ez-Zor, près de la frontière irakienne. Les FDS, les forces démocratiques syriennes, avaient d'ailleurs ralenti leurs opérations, disant craindre que des civils soient utilisés comme boucliers humains. Daesh est désormais acculé dans un minuscule réduit qui a été visé hier par 3 frappes aériennes et des bombardements à l'artillerie. Pour la première fois en 4 jours, des dizaines de civils et quelques combattants se sont alors rendus au FDS, dont des étrangers. L'ONU s'est dit préoccupée pour quelques 200 familles, dont des femmes et des enfants, qui seraient prises au piège des combats. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, près de 40 000 personnes, principalement des familles de djihadistes, ont fui le secteur depuis début décembre.
Et pour terminer, la première ministre britannique, Theresa May, remet le cap sur Bruxelles aujourd'hui en quête de modification de l'accord de Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Un accord déjà conclu avec l'Union européenne. On s'attend à ce que la leader britannique se heurte à des Européens inflexibles à moins de 6 semaines de la date officielle du divorce. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.